facendo di mamma, tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Ma sei nato in Italia, se da me non c'è sta niente a fa, ok, no, bonita. Tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America.
Tu cerchi il problema?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
Qu'est-ce que tu dis?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
C'est eux qui vous trouvent, hein?
Toute notre vie est un problème.
Et à qui la faute, tu crois?
Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairois. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère.
Il faut travailler à réduire globalement la violence qui reste invisible, en tout cas à partir des lieux centraux ou dominants, celle qui s'exerce au jour le jour, pêle-mêle, dans les familles, les usines, les ateliers, les commissariats, les prisons, ou même les hôpitaux et les écoles, et qui est le produit de la violence inerte des structures économiques et sociales et des mécanismes impitoyables qui contribuent à les reproduire.
La voie dérobée, le coin de cloison est prêché. Le souterrain mal fouillé dont les sentinelles ont égaré la clé. Ma presse à faux passeport, mon billet pour le Grand Nord. Mes propres boîtes de Pandore, boîtes noires et caisses d'or. Mes fumigènes, mes fumivores, échappés au signalement. Sous la pushka de mes 30 ans, dans la nuit des morts vivants. Parmi les leurres des écrans, je cherche l'angle mort. Le vrai bug, le fort accord, l'anti-mouchard, l'antidote, l'anticorps. La doublure, le doublon, canoncier dans le double fond. Le faux fuyant, le mirage, dans lequel les chiens de garde n'apercevront que leur image. Le plus parfait des parfaits camouflage. Le trompe-l'œil épique, l'exacte réplique. Au carbone 14, certifié authentique. Mon 20 mesures cathartique a pris le maquis acoustique. Ici la périphérie est au centre, et des territoires libérés s'inventent. Au point du soir, au point d'ivoire, clair dans le noir, clé en main. Claustro clandestin, les cleps au train. J'ai fait de l'angle mort de ma vie une métaphore.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, auditeurs et auditrices de Radio Canu, Radio Rebelle devant l'éternel. Vous écoutez, puisqu'il est 21h, passé de quelques minutes, vous écoutez l'émission Angle Mort, émission de critique et d'expérimentation sociale, émission depuis quelques semaines quelque peu intermittente, on va dire. On s'en excuse auprès des auditeurs qui ont envie d'entendre autre chose que la bande continue. Mais on fait notre possible. Au menu de ce soir, on va poursuivre une chronique entamée il y a plusieurs émissions autour des questions de vote, d'élection, etc. Une chronique qui avait commencé notamment avec une émission où on avait présenté un texte devenu classique de Pierre Bourdieu, l'opinion publique n'existe pas. qui s'est poursuivi avec un autre texte de Pierre Bourdieu, et donc ça c'était notre dernière émission, même si elle date maintenant de peut-être 2-3 semaines, puisque ça fait 2-3 semaines qu'on n'a pas dû faire l'émission, qu'on va poursuivre ce soir avec la lecture d'un texte de Laurent Jean-Pierre, professeur de sciences politiques à l'université de Paris 8, texte qui s'appelle « Ne pas voter et après ». Question pour la décision collective. Voilà, donc ça s'inscrit à nouveau dans cette série de réflexions autour du vote, de la nécessité ou pas de voter et de participer ou pas aux élections. Mais si on n'y participe pas, qu'est-ce qu'on fait à la place? Voilà, c'est un peu ça la question. Passer une première premier titre musical histoire de finir de s'installer et on se retrouve après. Donc j'ai calé Apatiano, un groupe anarcho-punk vénézuélien, avec la chanson Politica Electoral.
Au départ des courts-circuits,
au croisement des contraires,
au carrefour des massacres,
au point d'impact des colères,
à contre-courant en fer,
et contre toutes les misolières,
à la périphérie des gens,
au cœur des poudrières,
au départ des courts-circuits,
au croisement des contraires,
au carrefour des massacres,
au point d'impact.
Toujours à l'écoute d'Angle Mort, émission d'expérimentation et de critique sociale sur Radio Canu. Donc, pour refaire un petit peu le lien avec notre dernière émission, donc il était question d'un texte de Pierre Bourdieu, Le mystère du ministère, texte qui date de septembre 2001. Pour revenir un petit peu, s'en prend à la philosophie libérale du vote comme simple addition d'opinions censées être déjà là et transparentes à elles-mêmes. et donc déplace en gros la définition de la démocratie de la possibilité d'exprimer un choix en tant que tel vers la question du mode de production de ce choix. Et à ce niveau-là, Bourdieu insistait sur les conditions sociales d'un mode de fabrication de la volonté générale. Donc ce qu'il faut entendre ici, je pense, c'est notamment tout ce qui est transmission égalitaire d'une culture politique venant armer les citoyens, c'est-à-dire rupture avec les inégalités sociales devant la culture politique. Bourdieu insiste aussi sur la prise de décision comme confrontation entre points de vue susceptibles de transformer les points de vue en présence, c'est-à-dire pas une simple addition, mais une confrontation qui est susceptible de transformer les uns et les autres. Donc là, ça rejoint un peu les réflexions sur la démocratie plutôt comme délibération, on va dire. Et autre point qu'il insiste dessus, c'est que cette confrontation suppose, selon lui, une concertation préalable sur les instruments de la communication des points de vue. C'est-à-dire, est-ce qu'on se satisfait d'un débat public par les médias? Est-ce qu'on veut plutôt une forme de confrontation en interaction directe? Mais alors sous quelle forme? Est-ce qu'il faut des tours de parole, qui parlent en premier, etc.? Donc ça, c'est plutôt moins qui interprète, hein, mais c'est, je pense, sous-jacent à la fin de ce texte de Pierre Bourdieu que j'avais cité, lorsqu'il dit « Pour échapper à l'agrégation mécanique des opinions atomisées sans tomber dans l'antinomie de la protestation collective et apporter ainsi une contribution décisive à la construction d'une véritable démocratie, il faut travailler à créer les conditions sociales de l'instauration d'un mode de fabrication de la volonté générale ou de l'opinion collective qui soit réellement collectif, c'est-à-dire fondé sur les échanges réglés d'une confrontation dialectique supposant la concertation sur les instruments de communication nécessaires pour établir l'accord ou le désaccord et capable de transformer les contenus communiqués et ceux qui communiquent. » Voilà, ça c'était Pierre Bourdieu, c'était histoire de vous remettre un petit peu dans le bain. Voilà. Et donc, pour poursuivre ces réflexions, un texte qui est quand même plus clair que là l'extrait que je viens de lire, texte donc de Laurent Jean-Pierre, je disais, et qui va dans le même sens, qui me semble en grande partie influencé hein, par le texte Le mystère du ministère de Pierre Bourdieu, mais pas seulement, et qui permet déjà d'une part de clarifier ce texte, donc permet de clarifier ce qu'on peut reprocher effectivement au vote et aux élections, mais aussi rappelle que la seule critique en soi du vote est insuffisante, hein, de même que, là c'est peut-être un peu plus original, il estime que les alternatives qui ont jusqu'ici été avancées ou pratiquées en fait ne changent pas ce qui est profondément gerbant, on va dire, dans le vote, ou profondément insuffisant. Et donc, il réfléchit aux techniques de décision collective. Comment on fait qu'une décision va refléter effectivement une volonté générale. Voilà, donc c'est un texte qui se situe dans, on va dire, le genre de la philosophie politique, mais à nouveau, comme celui de Pierre Bourdieu, un texte armé de connaissances historiques et sociologiques. Et voilà, ça c'était pour le préalable, donc maintenant je commence la lecture de ce texte « Ne pas voter et après ». Question pour la décision collective, qui est parue dans la revue Multitude, revue politique, artistique, philosophique, qui était parue en fait en 2007, je crois. Enfin, c'était autour des élections présidentielles de 2007. Voilà.
Et de quoi on soupçonne? Quelle est l'utilité que vos unités me talonnent? Quand je ne fais que méditer, adossé à une colonne, je ne pose aucun problème, donc je pense et suppose.
Les bonnes raisons de ne pas voter à une élection présidentielle comme à toutes les autres élections, nationales et locales, sont nombreuses et écrasantes. Pour la plupart, elles ont été exprimées avec les premières expériences historiques du suffrage universel. Quelles que soient les règles fort variables de son exercice, celui-ci reproduit dans la pratique l'ordre social institué en favorisant des représentants issus des classes dominantes et les autorités traditionnelles ou ascendantes. Le pouvoir social étant distribué inéquitablement, les électeurs n'ont en outre pas la liberté de choix qu'on leur présuppose, et ce d'autant plus lorsqu'ils subissent également l'influence considérable de la presse, des sondages politiques et des médias. Le vote au suffrage universel confie aussi pour plusieurs années à des individus au profil très particulier, des professionnels de la fonction politique, hein, autrement dit des spécialistes de la conquête électorale plus que du « bon gouvernement », entre guillemets. Donc confie à ces individus au profil très particulier le sort de toute une population et la définition des règles à vocation pourtant universelle auxquelles elle sera soumise, cette population, même provisoirement. Lorsqu'elle repose sur le scrutin majoritaire, la démocratie électorale écrase aussi la minorité de ceux qui n'ont pas voté pour les élus. Bref, on trouve consignés hein, une grande partie de ces arguments, tels qu'ils se sont exprimés dans la tradition anarchiste à la fin du 19e siècle, dans une thèse de doctorat de l'Université de Paris 8, qui date de 2003, thèse de Caroline Granier, titrée « Nous sommes des briseurs de formules, les écrivains anarchistes en France à la fin du 19e siècle ». Donc ce genre d'informations, je les mettrai sur le blog de notre émission. Là, c'est Romois qui parle, c'est Roangle Mort qui parle. Voilà, notre blog qui est hébergé par le site internet de Radio Canu. Donc il faut aller regarder sur le site internet de Radio Canu, il y a les blogs, etc. Et donc il faut aller voir le blog d'Angle Mort. Je reprends la lecture. Elle, donc la démocratie électorale, réduit l'expression politique légitime du mécontentement à un seul type de comportement relativement inoffensif, et conjure aussi bien l'insurrection que d'autres formes plus locales et plus, ou plus directes de conflictualité. Lorsque furent instituées en France en avril 1848 les premières élections nationales au suffrage universel direct, et là Laurent Jean-Pierre cite Albert Hirschman, le vote représentait un nouveau droit pour le peuple, mais limitait également sa participation à la politique à cette forme précise et relativement inoffensive. Il apportait de même un moyen de tempérer l'éternelle avant-garde parisienne, avec ses tendances à l'action directe, par un esprit provincial autrement respectueux des traditions et des lois. Si l'insurrection est justifiée en l'absence d'élections libres et générales, comme l'affirmait alors l'opinion républicaine, inversement, l'instauration du suffrage universel pouvait être comprise comme une antidote au changement révolutionnaire. Et c'est bien l'idée qu'exprime ce slogan de l'époque. Le suffrage universel met fin à l'ère des révolutions. C'est un slogan de l'époque. Autrement dit, le problème du vote n'est pas tant que le résultat du scrutin soit truqué, vu la manière dont le pouvoir économique et politique est distribué dans la société, mais bien que le vote délégitimise des formes d'action politique plus directes, intenses et expressives, entre guillemets, qui sont à la fois plus efficaces et plus satisfaisantes. Donc tout ça, c'était une citation d'Albert Hirschman, tirée de Bonheur privé, Action publique. Un livre qui date de 1983-82. L'égalité formelle entre citoyens, autre raison, donc là on poursuit, hein, c'est raison écrasante de critiquer le vote ou de ne pas y participer. L'égalité formelle entre citoyens que présuppose l'universalité du droit de vote occulte enfin deux types d'inégalités réelles, non plus devant l'accès au pouvoir politique, mais face à l'acte électoral lui-même. La ségrégation sociale et culturelle entre ceux qui ont la capacité d'émettre une opinion et surtout de la traduire en vote, et ceux pour qui faire des choix ou des distinctions à l'intérieur du monde politique reste soit une énigme, soit un coup de dé. Autre inégalité, c'est une élimination, hors de la participation à ce même jeu, pourtant circonscrit de la politique représentative, d'une fraction de la population, comme c'est par exemple encore très souvent le cas pour les étrangers résidents qui participent par ailleurs, ne serait-ce qu'économiquement ou culturellement, à la vie collective. À quiconque se rassurerait donc encore de voir dans le vote l'aboutissement de la civilisation démocratique, et souvent son départ, comme une mythologie tenace située imaginairement à Athènes, à quiconque se repaît du nombre de nations tyranniques pour lesquelles l'élection au suffrage universel aurait représenté ou représenterait la figure nécessaire de l'émancipation, à quiconque glose plus ou moins cyniquement sur la démocratie représentative comme le moins nuisible des régimes politiques possibles, ou bien de ceux ayant historiquement existé, il suffit donc de rappeler que les mécanismes du vote au suffrage universel, qu'ils soient d'ailleurs soumis à la règle majoritaire comme à la règle proportionnelle, n'ont en rien fait disparaître le sens. C'est-à-dire le sens, c'était cet impôt du 19e siècle qui limitait la participation au droit de vote aux riches, on va dire. Donc n'ont en rien fait disparaître le sens qui, en France par exemple, les ont précédés. Ils en ont simplement modifié les critères tout en les dissimulant, redoublant de la sorte la domination censitaire classique, aristocratique ou bourgeoise, d'une illusion entretenue quant à la signification égalitaire de l'acte de voter. Dans la plupart des processus historiques, l'instauration de ce type d'élection n'est donc jamais rien d'autre, au fond, que l'instrument de légitimation d'une élite nouvelle lorsque les anciens mécanismes, plus brutaux ou plus directs, de reproduction sociale de l'ordre politique et de reproduction politique de l'ordre social sont entrés en crise.
De grandes mises en parenthèse, je n'y peux pas grand chose si nous ne sommes pas en phase. Voici les
On se fait une petite pause musicale dans cette lecture hein, de texte de Laurent Jean-Pierre, ne pas voter et après, question pour la décision collective. Et on poursuit la lecture de ce texte sur Radio Canu.
Je cherche
Et on s'écoute Jeffrey Lewis avec le titre System System. Une reprise de Crass, bien entendu.
System, 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 death and life. System, 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 the surgeon's knife. System, 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 hacking out the cord. System, 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 a child is born. Poor little fucker, poor little kid, never asked for life, no she never did. Poor little baby, poor little mite, crying out for food as her parents fight. System, 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 send him to school. System, 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 force him to crawl. System, 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 teach him how to cheat. System, 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 kick him off his feet. Poor little schoolboy, poor little lad, they'll pat him if he's good and they'll beat him if he's bad. Poor little kid, poor little chap, they'll force feed his mind with their useless crap. Force feed his mind with their useless crap.
System, 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 they'll teach her how to cook. System, 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 they'll teach her how to look. System, 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 they'll teach her all the tricks. System, 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 create another victim for their greasy pricks. Poor little girly, poor little wench, another little object to prod and pinch. Poor little sweetie, poor little Billy, they'll fuck her mind so they can fuck her silly. Fuck her mind so they can fuck her silly.
System, 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 he's grown to be a man. System, 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 he's been taught to fit the plan. System, 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 40 years of jobs. System, 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 pushing little buttons, pulling little knobs. Poor little worker, poor little serf, working like a mule for half of what he's worth. Poor little grafter, poor little gent, working for the cash that he's already spent. Working for the cash that he's already spent. He's selling his life.
She's his loyal wife.
Timid as a mouse.
She's got her little house.
He's got his little car.
They'll share the cocktail bar.
She likes to cook his meals.
He knows something that appeals.
Sometimes he works late,
so his supper has to wait.
But she doesn't really mind,
cause he's getting overtime.
He puts a bit away,
just for a rainy day.
Cause every little counts,
when the cost of living mounts.
Lottery each week,
hoping for that lucky break.
They would take a trip abroad,
do the things they can't afford.
She'd like to have a fur.
He'd like a bigger car.
They could buy a bungalow
with furniture for show.
He might think of leaving work,
but he wouldn't want a shirt.
He would much prefer to stay,
get an honest day's pay.
He's got a life to work ahead.
There's no rest for the dead.
She's trying to make it nice.
He said thank you once or twice.
System, 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 deprived of any hope. System, 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 taught they couldn't cope. System, 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 slaves right from the start. System, 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 till death do them part. Poor little fuckers, what a sorry pair. Had their lives stolen, but they didn't really care. Poor little darlings, just your ordinary folks. Victims of the system and its cruel jokes. Victims of the system and its cruel jokes. The couple views the wreckage and dreams of home sweet home. They'd almost paid their mortgage when the system dropped its bomb.
Nous reprenons sur Angle Mort la lecture donc de du texte de Laurent Jean-Pierre, Ne pas voter et après. Donc on a vu pour un rappel hein, les raisons de trouver le vote quelque chose d'antinomique avec la démocratie. Pour les résumer, l'idée premièrement que les électeurs n'ont pas la liberté de choix qu'on leur présuppose, notamment du fait de l'influence considérable de la presse, des médias, des sondages politiques, etc. Le fait qu'on va confier pour plusieurs années à des personnes au profil très particulier, c'est-à-dire des politiciens, le sort de toute une population... même provisoirement, de manière générale c'est toujours les mêmes hein, au pouvoir. Le fait que la démocratie électorale écrase aussi la minorité de ceux qui n'ont pas voté pour les élus, c'est une autre critique qu'on peut avancer. Le fait que c'est une expression politique d'un mécontentement qui est relativement inoffensif, qui va prendre la place à d'autres types d'expressions de mécontentement qui, elles, vont être plus efficaces que l'insurrection. Voilà, donc, historiquement c'est ce qui s'est passé. Hein. ça a délégitimé toute autre forme de pratique politique. Le fait que on a une idée d'égalité formelle entre citoyens, puisque on a l'idée d'universalité du droit de vote, qui en fait occulte deux types d'inégalités. D'une part, l'inégalité ségrégation sociale et culturelle entre ceux qui ont la capacité d'émettre une opinion en termes de vote, et ceux qui, pour lesquels en fait c'est plutôt une l'ordre du coup de dé, et qui vont en général souvent en marque avec les travaux de Daniel Gaxi, de Pierre Bourdieu, etc., se retirer eux-mêmes de cette forme de participation politique. Et autre type d'inégalité, bah, c'est une élimination là pour le coup juridique de toujours une fraction de la population, que ce soit les étrangers résidents alors même qu'ils participent à la vie collective, les jeunes de moins de 18 ans, pendant longtemps ça a été les femmes aussi jusqu'en 1945, etc. Voilà, et donc ces différents points d'argumentation amènent Laurent Jean-Pierre à dire que le vote n'est ni plus ni moins que l'instrument de légitimation d'une élite nouvelle lorsque les anciens mécanismes plus brutaux ou plus directs de reproduction sociale de l'ordre politique et de reproduction politique de l'ordre social sont entrés en crise. Ceci dit, maintenant, on va essayer d'aller plus loin donc, avec Laurent Jean-Pierre. Il essaye de creuser un petit peu plus. Donc, comment décider ? Laissé à ce stade, une telle critique de la participation électorale risque cependant de rester toujours insuffisante. Le retrait ou la défection vis-à-vis du vote ne constitue pas, en effet, des gestes capables de redéfinir à eux seuls les contours et les divisions de la politique. Même majoritaire ou presque, aujourd'hui dans de nombreux corps électoraux, l'abstention ne met pas en crise pratiquement les démocraties dites représentatives et leurs règles de fonctionnement. Plus fondamentalement peut-être, l'involontarisme tel qu'il est par exemple inspiré de la figure aujourd'hui réinterprétée politiquement du personnage de Bartleby. Bartleby, c'est un personnage d'un roman de Melville qui symbolise justement cet involontarisme. Donc cet involontarisme n'offre a priori par sa seule force aucun point de résistance au volontarisme tenace des entrepreneurs et professionnels de la politique. Et on peut dire qu'ils sont tenaces. Contre l'autosatisfaction à ne pas voter, même adossé au point de vue dandy ou pessimiste, nihiliste ou catastrophiste, que voter ne changera jamais rien, qu'aucune élection n'altérera le cours programmé du monde et ne pourra défaire la gouvernementalité, la régulation, la gestion ou la police qui, suivant le lexique variable des plusieurs philosophies politiques critiques contemporaines, supplante désormais la politique. Donc, contre ces formes d'autosatisfaction, les critiques consistantes du vote ont dû proposer la conversion à d'autres types d'actions, jugées, elles, authentiquement politique. Étant entendu que si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupe de vous, la dénonciation de la nature profondément oligarchique de la forme démocratique représentative doit privilégier d'autres voies d'expression. Émeutes, grèves, renversements violents, démocratie directe partielle ou intégrale, ou, comme c'est maintenant à la mode, démocratie participative, etc. Il n'y a là cependant que des mots d'ordre pieux si celles et ceux qui les adoptent croient, de cette simple manière, évacuer définitivement le problème que posent les illusions démocratiques du suffrage universel à toute forme d'action politique collective. D'une part, les critiques de l'acte électoral ne s'interrogent pas souvent sur les conditions sociales, le fait de disposer de temps par exemple, d'une vie politique plus « vraie » entre guillemets ou plus intense, plus fidèle aux aspirations de toute la population. Effectivement, en général, on ne réfléchit pas vraiment à ça. Ensuite, elle présuppose souvent un âge d'or perdu de la politique, où celle-ci aurait été plus directe, moins symbolisée ou euphémisée, plus petite ou mieux localisée, à l'échelle des problèmes réels rencontrés dans la vie collective, plus totale, entre guillemets. Tout est politique, hein, c'est le mot d'ordre, mais aussi, bien, plus rien peut-être ne saurait le devenir. Elles feignent surtout d'ignorer que les conditions de mise en œuvre et surtout de succès des formes de la politique qu'elles entendent promouvoir reposent, tout autant que l'élection d'un chef d'État, sur des techniques de formation de la volonté générale, pourtant plus ou moins connues de tous et objectivées comme telles. Parmi celles-ci, ces techniques de formation de la volonté générale, ni l'Assemblée générale indépendante d'organisation, prétendant avoir le monopole de la représentation d'un groupe social, ni le conseil de quartier institué par des élus ne saurait, par exemple, garantir la mise en égalité des points de vue et des opinions individuelles exprimées qu'exige théoriquement l'idéal démocratique. Avec des effets différents, des mécanismes de ségrégation semblables à ceux qui ont été soulignés dans le cas du vote d'échelle nationale au suffrage universel direct se retrouvent, en effet, dans ces formes plus immédiates ou plus petites de l'action politique. Et là, pour une vérification empirique, dans le cas historiquement paradigmatique de la Suisse, on peut se reporter à un livre de Hans Peter Kriesi, là aussi on le mettra sur notre blog, hein. Citoyenneté et démocratie directe, Compétences, participation et décision des citoyens et citoyennes suisses. Livre qui date de 93. Et même en l'absence de représentants visibles ou cachés venus des partis et des syndicats, il existe toujours quelques habitués ou professionnels entre guillemets de la parole qui exercent, même involontairement, une domination, ne serait-ce que tacite, sur ces collectifs. Alors de deux choses l'une, soit ce type de spécialisation politique est acceptable et accepté par tous ou la majorité par volontarisme politique, foi dans la nécessité d'une avant-garde révolutionnaire, ou compte tenu par exemple des conditions contemporaines de vie qui laisseraient plus peu de loisirs pour la plus grande partie de la population à la discussion et l'action politique, soit il faut la dénoncer, comme l'a fait une grande partie de l'anarchisme au nom d'une critique de la cristallisation de toute forme de pouvoir, a fortiori lorsque celui-ci est non institué et insu, ce qui ne saurait aller sans le renforcement de ses effets. Soviet, conseil ouvrier, assemblée générale, coordination, référendum, budget participatif, observatoire citoyen, disposition en faveur de l'initiative populaire, conseil de développement, conférence de consensus, etc. Aucun de ces dispositifs de formation de la volonté générale ne peuvent en tout cas représenter, de par sa seule essence et sans construction collective préalable de l'instrument, une alternative sérieuse aux illusions démocratiques. Il ne suffit donc pas de réduire la taille des collectifs appelés à voter, ni de supprimer ou de fluidifier par procédure de rotation ou mandat impératif et révocable le problème de la délégation de pouvoir, de l'autonomisation du pouvoir des porte-parole, pour s'affranchir des contradictions entre les principes et les résultats du vote au suffrage universel. Du point de vue d'une critique de ce dernier, l'opposition entre démocratie directe et démocratie représentative n'est donc peut-être pas la plus pertinente. L'engouement récent pour la démocratie participative ou dite de proximité devrait en fournir une preuve supplémentaire, car elle ne représente en définitive que l'extension vers les zones abstentionnistes ou indifférentes à la politique de la soumission aux mécanismes et aux règles du marché politique. Cela signifie aussi que la différence de nature, et non pas seulement d'intensité, entre les positions révolutionnaires et réformistes, et a fortiori contre-révolutionnaires, ne dépend peut-être plus tant de l'acceptation de la légitimité de l'action directe, par exemple de la violence politique qui divise le mouvement dit altermondialiste, ni de l'opposition au jeu de la démocratie dite représentative. Elle doit désormais partir du problème pratique des techniques de décision et de leurs effets sur la construction d'une volonté collective. La question de l'organisation, le débat entre spontanisme et organisation, romantisme et rationalisme, ont, comme on sait, occupé une grande partie de la tradition révolutionnaire du XXe siècle. Par exemple à travers l'opposition rigidifiée de l'anarchisme et du communisme, et des tendances centralistes et libertaires qui se sont opposées lors du dernier mouvement historique antisystémique d'envergure mondiale dans la décennie suivant 1968. Le problème de la décision, ou plutôt de la lutte entre modes de production des décisions, est un critère plus pertinent de la politique radicale à venir.
Le point d'impact des colères,
à contre-courant envers,
et contre toutes les muselières,
à la périphérie des genres,
au cœur des poudrières,
au départ des courts-circuits,
au croisement des contraires,
au carrefour des massacres.
Eh bien, nous allons refaire une pause musicale avant de reprendre la lecture de ce texte de Laurent Jean-Pierre, Ne pas voter, et après sur Radio Canu, Angle Mort.
Des court-circuits,
au croisement des contraires,
au carrefour des massacres,
au point d'impact des colères,
à contre-courant.
Au cœur
des poudrières,
C'était très rapide hein, ce titre. Ça m'apprendra à lancer Migra Violenta avec le titre Autogestion. C'est un groupe qui fait des chansons effectivement qui en général ne dépassent pas les 30-40 secondes. C'était peut-être une minute. Allez, petit résumé de la partie là qu'on vient voir. En gros, donc on a vu les raisons écrasantes de ne pas voter et de trouver d'autres formes de démocratie que les élections telles qu'elles fonctionnent actuellement. Dans la partie qu'on vient de voir, Laurent Jean-Pierre déjà se démarque de l'autosatisfaction à ne pas voter, hein, qui en soi est bien sûr insuffisante. Et il rappelle que contre cette autosatisfaction à ne pas voter, on a eu plusieurs propositions d'alternatives aux élections qui ont été faites dans l'histoire. Émeutes, grève, démocratie directe, partielle ou intégrale, démocratie participative, etc. Lui estime que finalement ça revient souvent au même. Déjà parce qu'on va pas s'interroger sur les conditions sociales d'une vie politique plus vraie ou plus intense. Enfin, on en revient au même parce qu'au fait que ce soit participation au vote ou que ce soit participation à une démocratie directe partielle, on va retrouver la ségrégation sociale et culturelle qu'on évoquait plus haut, notamment le fait de disposer de temps aussi. Hein, si on change pas le mode de vie économique, on retrouvera les mêmes problèmes. Et au-delà de simple fait de disposer de temps, voilà, il y a cette ségrégation sociale qui joue. Et donc, pour Laurent Jean-Pierre, ni l'Assemblée Générale indépendante d'organisation prétendant avoir le monopole, ni le Conseil de quartier ne sauraient en eux-mêmes aboutir à cette mise en égalité des points de vue et des opinions individuelles, qui est l'idéal démocratique. Voilà, on va retrouver souvent, même dans les petits collectifs révolutionnaires, hein, des habitués, des sortes de professionnels de la parole qui vont exercer même involontairement une domination. Et donc, soit on l'accepte parce qu'on estime qu'en fait on ne peut pas faire autrement, que c'est normal, soit on estime qu'il faut se passer de ça et trouver des moyens de fonctionner autrement pour éviter les formes de dépossession, de délégation, de recréation d'une forme de bureaucratie dans la contestation, etc. Voilà, donc c'est un peu les points principaux. Et le dernier point principal de cette partie, c'était que finalement l'opposition fréquente entre anarchisme et communisme, entre tradition libertaire, tradition centraliste, etc. Finalement sont peut-être pas les oppositions les plus pertinentes et que on pourrait refonder nos mouvements sociaux à partir d'une nouvelle opposition qui serait plus technique, qui serait le problème de la décision, plutôt la lutte entre modes de production de décision est un critère plus pertinent de la politique radicale à venir. C'est dans nos capacités à se saisir de ce problème, selon lui, que on pourrait vraiment distinguer une politique radicale d'une politique on va dire réformiste ou non. Donc je poursuis la lecture de ce texte. La boîte noire du vote. Entrons par conséquent plus avant dans certains des mécanismes généraux du vote. Par-delà les différences entre les nombreuses technologies sociales qui, de la Grèce à aujourd'hui, ont consolidé des formes incommensurables, quoique incessamment comparées, de l'activité démocratique. Toute pratique de décision par vote repose, dans une assemblée comme devant l'urne, sur la fiction libérale, de l'existence d'une opinion individuelle, d'une opinion en outre indépendante, toujours déjà formée et connaissable également par tous. Il n'y a au fond aucune différence entre ces fictions et celles qu'entretient depuis quelques siècles l'économie politique à propos de l'acte d'achat ou d'investissement. La scénographie électorale et son rituel font abstraction du réseau de relations sociales qui peuvent exister avant le vote entre les électeurs. De ce point de vue, la mise en place d'une procédure de tirage au sort des personnes appelées à voter ne changerait d'ailleurs rien, car elle ignore tout autant le poids différentiel de chaque votant et les relations qu'il entretient. De même, le tirage au sort des représentants, élus, délégués ou mandataires, ne garantit lui non plus aucune « démocratisation » entre guillemets, si ceux-ci sont eux-mêmes conduits à leur tour à voter pour prendre des décisions. Seul le tirage au sort entre plusieurs décisions possibles jugées acceptables auparavant introduirait un nouveau principe radicalement aléatoire de la formation de la volonté générale. Pour que l'acte de vote exprime une volonté véritablement collective, il faut qu'il émane d'un groupe où les relations sont suffisamment régulières et intenses pour que chaque choix individuel puisse éventuellement être considéré aussi comme une partie du choix collectif. Et là, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière, enfin pas la semaine dernière, mais l'émission dernière, dans le texte de Pierre Bourdieu, le mystère du ministère, qui partait d'une citation de Durkheim. C'est justement le point de vue de Durkheim, ça. De ce constat que pour qu'un vote exprime une volonté collective, il faut qu'il émane d'un groupe où il y a déjà des relations régulières, intenses, etc. Donc de ce constat vient sans aucun doute, dans la tradition critique du vote au suffrage universel, la quête par essence, indéfinie de l'unité sociale qui serait la plus naturelle, la plus homogène, la plus pure en somme, pour supporter la réduction opérée par les procédures de vote. Canton, circonscription, corporation, ville ou quartier, usine ou profession, etc. Ainsi, par exemple, de Bakounine affirmant que la base de toute l'organisation politique d'un pays doit être la commune absolument autonome, représentée toujours par la majorité des voix de tous les habitants, hommes et femmes majeurs. En toute rigueur, mais aussi en toute ironie, il faudrait proposer de voter, afin de savoir quelle est parmi ces communautés possibles la mieux formée pour que le vote n'y soit pas qu'un leurre arithmétique. L'histoire des mouvements sociaux américains des années 50-70 témoigne, au milieu de nombreux autres exemples historiques, des modèles implicites dominants de collectifs mobilisés en général derrière la critique radicale des démocraties représentatives. Communauté amicale mais exclusive, communauté très hiérarchisée d'apprentis et de maîtres, communauté construite sur le modèle de la congrégation religieuse tournée vers une puissance extra-mondaine. Donc là, Laurent Jean-Pierre renvoie à un livre de Francesca Poletta, Freedom is an Endless Meeting, Democracy in American Social Movements, voilà, un livre de 2002. Toutes ces communautés sont fondées sur une division ou une séparation originaire qui exclut qu'on puisse généraliser leur exemple éventuel afin de construire une démocratie égalitaire. Hors d'une telle voie substantialiste de restauration du vote organique derrière le vote arithmétique, de la communauté idéale derrière la société malade, il existe, dans les philosophies et la théorie politique contemporaine, plusieurs voies procédurales visant à corriger, voire à dépasser, les traits structurellement oligarchiques du vote dit démocratique au suffrage universel. Là, il faudrait peut-être que je reprenne la phrase en... En plus de ces perspectives de restaurer un vote qui serait l'émanation d'une communauté plutôt que l'agrégation d'individus qui ne se connaissent pas et n'ont pas collaboré, dans la philosophie politique actuelle, on va trouver plusieurs voies donc qui vont insister sur la démocratie comme simple expression d'un choix, mais réfléchir aux procédures de la démocratie pour corriger cette forme d'oligarchie qui s'accompagne du vote au suffrage universel. Donc oligarchie, le pouvoir d'une petite minorité sur une grande majorité. Donc je reprends la lecture. Excluons d'emblée parmi ces solutions presque exclusivement technologiques, celles qui sont presque exclusivement technologiques, c'est-à-dire voter en appuyant sur un bouton ou via internet, ne change en fou rien au principe fallacieux sous-jacent de construction d'une volonté générale à partir de l'agrégation de volontés individuelles pourtant dépendantes les unes des autres et incommensurables. Donc deux modes principaux de construction des décisions collectives semblent se partager aujourd'hui le débat sur la démocratie post- ou néo-représentative, quelle que soit par ailleurs l'échelle envisagée de leur application, qu'on raisonne en termes de communes, de circonscriptions, etc. Donc la première tendance, qui est probablement la plus promue, est centrée sur la discussion et la délibération comme méthode d'établissement d'une opinion commune. C'est-à-dire que c'est un courant qui recherche les... Pas un courant parce qu'il n'est pas constitué comme tel, mais c'est une approche qui recherche les conditions techniques et linguistiques de clôture d'un débat, avec cette hypothèse que chaque individu est aussi armé et indépendant devant le dialogue qu'il l'était devant le vote. Et cette téléologie pour laquelle tout dialogue conduit nécessairement à un accord plutôt qu'à une polarisation des opinions. C'est-à-dire que là, on essaye de réduire les différences pour aboutir à un consensus. On imagine que par le dialogue peut émerger un accord plutôt qu'une rupture et une polarisation des opinions. Donc le second courant, on va dire, donc le second mode de construction de la volonté générale passe au contraire par des opérations d'épaississement plutôt que de diminution. politique de l'excédent contre politique de la réduction. Il pose la représentation, la transformation par traduction d'une opinion émise comme des faits indépendants, comme des faits indépassables pardon, sur lesquels les collectifs doivent s'appuyer et s'enrichir. Donc là, il cite notamment, Laurent Jean-Pierre fait référence à une citation de Bruno Latour qui incarnerait un petit peu cette approche. C'est-à-dire qu'on recherche une démultiplication des prises et des plans sur la réalité plutôt que d'un plus petit dénominateur commun. Je commence à avoir du mal, moi. Construction d'une relation par interprétation réciproque de la voix de chacun plutôt qu'au postulat d'une indépendance de l'individu dans la discussion. Et défiance contre toute universalisation plutôt qu'identification du commun et de l'universel. Donc derrière la question du vote ou de l'abstention, la lutte actuelle entre technologie de la décision collective met en scène d'un côté, on l'a vu, l'universalisme des Lumières rénovées et de l'autre, plutôt une nouvelle cosmopolitique des différences. Donc il y a ceux voilà, qui insistent sur les techniques qui viennent réduire les oppositions et ceux qui insistent sur les techniques qui viennent exprimer les différences. Et c'est vrai que pour ce second aspect, la question serait bon, à quelle décision collective peut sortir de là, outre le simple fait de scinder le groupe. Voilà. Ceci dit, je pense que l'expression préalable des positions en présence et les échanges sur les intérêts des partis en présence est, à mon sens, essentielle à toute confrontation ou concertation préalable à une prise de décision collective. Bon, c'est pas forcément plus clair là ce que je dis que ce que je lis. Alors je poursuis la lecture. En fait non, je vais pas poursuivre tout de suite la lecture, je vais prendre une petite pause musicale, bien méritée. Qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien on va mettre The Taxpayers avec Some Kind of Disastrous Relief.
Adossé à une colonne, je ne pose aucun problème. Donc je pense et suppose que ma forte dose de mélanine est la seule mise en cause. Souvent vue comme mauvaise lors des bavures commises et sur qui pèse. Yeah, you got more trouble than you can handle, honey. The fuck you gonna do? How you gonna scrape on by? I do believe that there are two things you do in this situation. Down, I'm going to hiding. Cause some people got brains, other people got talent, others just look good. You and me, we got none of those things, but listen up. My, what a position. The love of my life, smoking crack in the kitchen. Lovely long nails and a nasty apron. It's a living, she shrugs. It's a missile disguised as an ethic. It's a rabbit suffocating in a rabbit hole. It's politics as usual.
Je n'y peux pas grand chose si nous ne sommes pas en phase. Voici mes papiers, on le fait.
Ah, je me rends compte que j'avais pas du tout fermé mon micro, donc j'ai pas fait énormément de bruit, je pense qu'il y a rien qui s'est entendu. Enfin, j'ai pas parlé du tout. Mais voilà, donc c'était, je l'ai annoncé, c'était The Taxpayers avec Some Kind of Disaster Relief. Et on poursuit la lecture de ce texte de Laurent Jean-Pierre, ne pas voter après. Donc pour résumer un petit peu ce qu'on a vu juste avant le titre musical, en gros, c'est de dire contre bon l'opposition traditionnelle entre tradition libertaire et ceux qui vont accepter la participation au suffrage universel. Et quand il y a en fait les oppositions devraient se situer ailleurs, et donc ils présentent quelques-unes des réflexions sur les techniques de décision, les techniques d'élaboration d'une volonté générale. Donc il y a ceux qui vont vouloir refonder ces décisions collectives avec cette idée de faire en sorte que le vote émerge, soit vraiment collectif et qu'il émerge d'une communauté. Hein. Donc ils vont chercher quelle serait l'unité géographique pertinente dans laquelle il pourrait y avoir des décision véritablement collective, parce que les gens vivent collectivement. Il y en a d'autres qui vont réfléchir à des techniques qui permettraient d'aboutir à un consensus, à réduire les oppositions. Et enfin, il y en a d'autres qui, à l'inverse, réfléchissent plutôt à des techniques qui permettraient de faire ressortir les différences, de les exprimer. Et voilà, d'exprimer les différentes prises, les différentes visions sur la réalité, qui vont refuser toute forme d'universalisation, toute forme de commun, d'universel, etc. Voilà. Donc, je reprends la lecture pour une dernière partie qui sera assez courte, rassurez-vous. Donc, partie qui s'appelle « Le vote comme enquête collective ». Ces mailles, donc, que je viens de rappeler, là, ces oppositions entre techniques de décision, sont cependant grossières, ces oppositions faciles pour permettre d'y voir réellement plus clair. D'autant que ce n'est pas nécessairement de clarification des enjeux qu'il s'agit avec cette affaire de décision sur les techniques de décision. Les deux options présentées ici partagent en effet l'hypothèse d'une transparence, effective ou désirable, à soi et aux autres. L'hypothèse d'un accès libre, aisé, de chacun à sa propre opinion, celle-ci apparaissant sous le mode de l'évidence plutôt que comme le résultat incertain d'une investigation. Or, cette transparence n'est jamais donnée, tant un voile épais couvre, derrière des affirmations pourtant contraires, les préférences et les dilections. Il reste en outre vain de croire trouver le secret de la démocratie dans l'élaboration de règles justes et parfaites, qu'il suffirait ensuite seulement d'adopter dans une communauté ou un collectif toujours déjà là. Au contraire, c'est d'ailleurs l'idée que les techniques de décision et de vote et les collectifs s'entredéterminent, qu'aucun de ces ensembles ne précède logiquement ou chronologiquement l'autre, qui anime toutes les approches procédurales actuelles de la question démocratique. Pourquoi ne pas radicaliser cette hypothèse selon laquelle le processus de décision et l'exercice du vote peuvent devenir les terrains privilégiés d'un apprentissage individuel et de formation de collectif? Que se passerait-il si le problème de la décision et, par extension, du vote était ainsi déplacé, s'il était pensé comme la recherche d'une vérité plutôt que comme l'expression d'un vœu? Il faut, disait Condorcet dans son Arithmétique politique, que les procédés d'une assemblée délibérante se rapprochent autant que possible de ceux que suit l'esprit d'un seul individu dans l'examen d'une question. On trouvera cette citation dans Gilles Gaston Granger, La mathématique sociale du marquis de Condorcet. Donc comment, qu'est-ce qui se passerait hein, si la décision et le vote étaient déplacés et pensés comme la recherche d'une vérité plutôt que l'expression d'un vœu, d'une opinion déjà présente? Comment faire pour que l'expression des opinions de chacun soit en fait conçue comme un exercice de construction d'hypothèses, pour que chacun affecte par exemple ses penchants d'un coefficient d'erreur ou de conformité à la vérité? Autrement dit, pour le questionnement individuel sur ses propres choix soit intégré dans le processus de formation de la volonté générale. Il serait idiot de vouloir trancher ici solitairement de telles questions. Il convenait juste d'introduire à la réflexivité qu'implique aujourd'hui en définitive le refus de l'acte électoral dans les démocraties représentatives. Voter, c'est abdiquer, résumait Élisée Reclus. Mais le vote rejeté, l'enquête commence ou continue, collectivement.
soir, limpide et sans mystère, il n'est pas rare que j'entende contrôle d'identité, bonsoir. Non, je ne vais nulle part, et puis je n'attends.
Voilà, donc nous sommes arrivés au bout de la lecture de cet article « Ne pas voter après » de Laurent Jean-Pierre. Une fin qui amène à des réflexions en fait, qui tranche pas du tout. En fait, une fin qui veut remettre en avant quelque chose qu'on voyait un peu hein, dans ce que j'ai vu en ce que j'ai dit en introduction avec le texte de Bourdieu, c'est-à-dire remettre en avant. Les réflexions sur les décisions et sur les modes d'élaboration des décisions. Et là, Laurent Jean-Pierre dit, en fait, faudrait sortir d'une vision où la décision, quelles que soient les procédures adoptées, serait simplement liée à l'expression d'opinion déjà existante. Et en fait, faudrait arriver à... Enfin, il faut concevoir la décision comme une réflexion menée par tout un chacun sur qu'est-ce qui nous amène à préférer ceci plutôt que cela, qu'est-ce qui va nous amener à prendre à être plutôt favorable à telle décision plutôt qu'une autre. Donc ça serait un vote comme une enquête collective et individuelle. Alors c'est pas forcément très très concret hein, là j'espère que enfin si vous avez suivi, je pense que vous voyez un peu la nécessité de ce genre de réflexion pour arriver à dépasser les limites actuelles du suffrage universel qu'on va retrouver peu ou plus ou moins dans les différentes alternatives proposées. Et concrètement, moi je pense, enfin peut-être que du coup j'ai totalement compris de travers ce texte, mais en tout cas je pense qu'on pourrait en déduire par exemple dans des débats de collectifs, etc., que chacune des positions en présence soit obligée en quelque sorte d'auto-analyser les raisons sous-jacentes de leur point de vue affiché. Alors, on pourrait demander que, plutôt que de faire un débat où chacun exprime un point de vue, que quand on en exprime un point de vue, on soit obligé d'essayer d'exposer pourquoi ce point de vue nous semble meilleur, et en prenant en compte dans ce pourquoi les caractéristiques sociales, hein, nos origines sociales, notre position professionnelle, nos caractéristiques en tant que sexe, les libidos peu différenciés qui en découlent de ces positions différenciées dans l'espace social. Je pense que ce genre de petites techniques pourraient aussi faire en sorte de dépasser des débats où on va réidéologiser après coup des trucs qui en fait souvent ne tiennent pas vraiment de l'idéologie, mais plutôt de l'opposition à telle personne dans le collectif. Voilà, donc c'est ce genre de réflexion, je pense, que ce texte amène à essayer de développer, sachant que, après, sur la fin du texte, il va pas proposer de pistes concrètes. Hein. Il dit, après, c'est collectivement qu'il faut arriver à déterminer des manières d'élaborer des décisions qui ne soient plus fondées sur cette idéologie d'une expression d'opinion qui serait transparente à elle-même, qu'on saurait quelles sont nos opinions, et elles seraient claires, c'est pourquoi on pense ça, et qu'il faudrait plutôt considérer l'expression d'une opinion comme recherche de la vérité. Voilà. Je crois que je vais vous laisser là-dessus méditer. Il nous reste 5 minutes, donc on va terminer avec un petit titre musical, et puis on se retrouve après pour se dire au revoir.
Le vrai bug, le faux raccord, l'anti-mouchard, l'antidote, l'anticorps, la doublure, le doublon, canoncier dans le double fond, le faux fuyant, le mirage, dans lequel les chiens de garde n'apercevront que leur image, le plus parfait des parfaits, camouflage, le tronc. L'œil épique, l'exacte réplique, au carbone 14, certifié authentique, mon vin mesure cathartique a pris le maquis.
Allez, donc c'est la fin bientôt, de cette édition d'Angle Mort sur Radio Canu, et pour terminer, on lance un petit Rage Against the Machine, c'est rare, hein, on passe rarement, et pourtant c'est bien quand même. Donc avec Take the Power Back, puisque c'est quand même ça l'idée à la fin, c'est de reprendre le pouvoir. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine, on va être optimiste, ou plus tard sinon. Et d'ici là, passez une bonne fin de dimanche.
Au départ des courts-circuits,
au croisement des contraires,
au carrefour des massacres.
Thank you.
it, break it, break it down.
Class, but the lesson plan he can't recall. The student's eyes don't perceive the lies bouncing off every fucking wall. Closure is well kept, I guess he fears playing the fool. The place in students sit and listen to that bullshit that he'd learned in school. You're up